Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface, Les Caprices de Thérèse. Dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, on démarre tout de suite avec notre sommaire de ce lundi, avec aujourd'hui notre coup de cœur cinéma qui est consacré au film Grand Ciel. Akihiro Hata, le réalisateur, sera notre invité. En fin d'émission, nous recevrons la grande gagnante de l'Eurovision, Junior. Lou Deleuze sera avec nous. Elle nous dira tout sur son expérience, mais aussi sur ses projets. Nos coups de cœur télé cette semaine consacrés au diplôme avec Suzy Deschamps. Vous avez peut-être découvert dans son personnage lundi dernier. Elle sera avec nous pour revenir là-dessus. Et puis les apprentis champions au ski démarrent aujourd'hui à 17h40 sur W9. Philippe Candelro et Louison, l'un des participants que vous avez peut-être connu dans Pékin Express, seront avec nous pour nous en parler. Et puis il a sorti un livre qui est censé nous faire gagner du temps. On va y revenir avec Fabien Licard, le mentaliste préféré des Français, qui sera notre invité exceptionnel. Et puis en coup de cœur cinéma, cette semaine, en exclu podcast, nous recevrons René-Paul Lenzkus, qui est réalisateur du film Ludovic, un documentaire qu'il a consacré à un des plus gros barytons de sa génération. Vous l'avez compris, on va encore pas s'ennuyer aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé, alors on démarre tout de suite avec notre coup de cœur ciné.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Notre coup de cœur ciné aujourd'hui est consacré à Grand Ciel qui sortira mercredi dans les salles à cette occasion. Le réalisateur Akihiro Hata est avec nous. Bonjour Akihiro.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On va plonger au cœur d'un quartier futuriste qui est en plein travaux, qui est en pleine construction. À travers ce chantier, on va parler évidemment du personnage de Vincent et des autres dans quelques instants. Comment est venue l'idée déjà du film Akihiro pour commencer?
Donc l'idée vient de plusieurs réflexions. En fait, ça fait plusieurs films à travers lesquels je traite le sujet du travail et le rapport, nos rapports au travail et surtout comment le travail en fait influence nos relations humaines. Donc j'ai fait plusieurs courts-métrages sur agriculture, dans le domaine de nucléaire. Et donc ce film-là, c'est dans le BTP, c'est dans la prolongation de travail en fait que je mène depuis déjà plus de 10 ans. Et associé à ça, je trouve en fait que le chantier est un décor incroyable pour le cinéma, surtout la nuit, parce que ça devient pour moi un lieu presque comme une maison hantée en fait. En gros, c'est un peu l'image que j'avais depuis petit, parce que je me baladais de temps en temps comme ça dans la nuit dans les chantiers de construction qu'il y avait autour de chez mes parents au Japon. J'ai vraiment ce souvenir un peu de lieu qui prend vie en fait, qui devient hyper menaçant, qu'on a l'impression qu'on peut plus s'en sortir. Donc voilà, toutes ces inspirations s'est retrouvées autour de ce projet-là et c'est devenu Grand Ciel.
Alors, il y a beaucoup de scènes effectivement sur des chantiers, des choses comme ça. Comment on s'y prend pour trouver des décors qui vont matcher pour le coup avec le sujet du film?
Donc ça, c'était très compliqué en effet. Le décor du film, en réalité, c'est plusieurs décors. Repérage de décors de chantier, c'est particulier parce que c'est pas comme si on cherchait une maison et qu'on voit la maison et qu'on se dit voilà, ça, c'est là où on va tourner. En fait, le chantier est toujours vivant. Le chantier, il change tous les jours. et qu'on fait des repérages 6 mois avant le début de tournage, bah en fait on voit un terrain vague quoi. On regarde le plan de construction, on discute avec des ingénieurs et petit à petit on commence à imaginer ce que ça va devenir au moment de tournage. Et c'est comme ça qu'on a fait le repérage. On a trouvé plusieurs décors pour associer, combiner, pour créer un décor. Et en plus, il y a aussi une petite construction dans un studio de tournage pour recréer en fait des décors qu'on n'avait pas vraiment accès ou qui n'existaient pas dans la réalité. Donc voilà, c'est plusieurs morceaux de plusieurs décors dans d'autres endroits composés qui fait que le décor du film existe, quoi.
Ouais, parce que ça doit être effectivement assez compliqué. Alors on va y suivre Vincent, on a un casting assez fou, hein, Samir Ghasmi, on avait Damien Bonnard aussi qu'on adore, et on va y suivre Vincent qui travaille donc au sein de cette équipe de nuit sur ce chantier, quartier futuriste. On reste vraiment dans du sujet très contemporain, justement parce qu'il y a beaucoup de quartiers qui sont futuristes un peu en construction aujourd'hui à travers le monde. Mais voilà qu'un ouvrier va disparaître et depuis plusieurs heures on ne sait pas où il est passé. Ils vont essayer de le rechercher et quand ils vont s'apercevoir effectivement qu'il a disparu et c'est qu'un deuxième va disparaître, que se passe-t-il? Ils vont soupçonner très vite la hiérarchie en fait de dissimuler un peu tout ça. Et on y voit aussi un peu quand même le sujet du traitement des ouvriers dans ce film, qui peut être fait à l'étranger par exemple sur de gros chantiers aussi. Est-ce que ce genre, je dirais presque, de maltraitance au travail existe ici en France aussi?
Ah bien sûr, c'est vraiment l'histoire du film est aussi inspirée d'un fait divers en fait qui date de 2019. En tout cas, il y a un ouvrier, son papier en l'occurrence avait disparu du chantier. Personne s'en est vraiment aperçu. Il a failli être coulé dans du béton parce qu'on n'avait pas vu que l'ouvrier était tombé en fait. Il a failli vraiment tomber dans l'oubli et que vraiment comme si il n'avait jamais existé quoi. Et en fait, c'est vraiment un fait divers qui existe. Et même pendant la préparation, parce que là, c'était au moment de avant le Géo, Grand Paris, il y avait des chantiers partout en Île-de-France. Et
il y avait le choix du coup de décor.
Bah justement, ça a été. Il y a un jour où il y avait un moment où effectivement il y a eu un accident mortel de fatigue, de problème de sécurité, et on a perdu. Soudainement plusieurs décors. Non, mais c'est pour dire que non, le BTP partout dans le monde, y compris en France, est un milieu de travail extrêmement dangereux. J'ai rencontré beaucoup d'ouvriers dans plein de domaines et tout le monde m'a dit que il faut vraiment rencontrer ceux qui travaillent dans le BTP parce que en fait c'est assez grave quoi, qu'il se passe quoi.
Et comment on peut imaginer ça encore en 2025 c'est ça qui est encore plus dur. Comment on peut traiter des gens comme ça? Comme un peu du bétail à la fois. On va voir quand même des personnages qui se rebellent aussi contre leur hiérarchie. Il y a quand même de l'âme bonne aussi. C'est quand même c'est la lumière du film, ces personnages.
Bah en fait, je pense que j'ose espérer que ça s'est un tout petit peu amélioré, en tout cas par rapport à il y a 10 ans ou 20 ans, dans le sens où c'est un peu plus sécurisé, il y a des contrôles, il y a des identifications des ouvriers qui avaient vraiment pas du tout avant et tout. Malgré tout, il y a beaucoup de sous-traitance, beaucoup d'intérimaires pour pouvoir virer facilement ceux qui travaillent, et s'il y a un problème, se dédouaner de la responsabilité, qui ça c'est quelque chose qui est un peu dans plein de milieux, c'est comme ça, et y compris dans le BTP, et c'est particulièrement grave parce que c'est un lieu de travail très dangereux, quoi. Ça existe toujours, en tout cas, c'est l'invisibilisation, on va dire, de ces travailleurs, en fait.
Le casting, incroyable, travailler avec des gens comme Damien Bonnard et Samir Ghasmi. Comment on fait pour les convaincre, Akihiro? Qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là pour leur dire, allez, viens sur mon film?
Damien, c'était assez simple. On lui a soumis le scénario. Il l'a lu. Il nous a dit « J'adore, je suis dispo, on y va ». Samir aussi, pareil, très vite, puisque ça parle un peu de l'histoire de son père qui travaillait dans les BTP. Donc, il m'a dit « Voilà, j'ai lu en lisant ton scénario. J'ai compris, en fait, pour la première fois ce que faisait mon père. Pourquoi il avait ces outils-là, à quoi servaient les outils qu'il ramenait à la maison, pourquoi tous ces bétons étaient tout craqueleux comme ça, gris, tout ça, bah c'était du ciment. Tout ça, c'était les souvenirs d'enfance qu'il avait. Et en lisant mon scénario, bah tout ça, voilà, il a revisité un peu tous les mémoires d'enfance et en fait ça l'a beaucoup touché, je crois. Il m'a dit oui, il a été conquis. Et Mouna, pareil, en fait, lecture de scénario. Elle a adoré. On a beaucoup parlé de son personnage qui était un peu moins écrit que les autres personnages. On a beaucoup travaillé, écrit et complexifié le personnage avec Mouna. Et on a travaillé, voilà.
Bon, dernière question à Kiro. Quelle a été la scène qui a donné quelques sueurs froides ou quelques nuits blanches?
Alors, il y en a beaucoup. C'était pas des sueurs froides, mais tournage de nuit dans un chantier en mars, c'était pas simple pour toute l'équipe parce que il fait très froid et il fait nuit. On a fait presque 2 semaines de nuit, donc on vivait de nuit comme les personnages du film. Et donc la fatigue, le froid, la concentration, on est très vite très sale. Et c'est un peu dangereux aussi, donc il fallait faire attention. C'était tous les jours très compliqué, comme...
Sinon, ça serait pas un tournage.
Exactement, comme tous les films, je pense que tous les réalisateurs disent ça. Voilà, donc je crois que c'était plutôt... Ouais, là, le tournage de nuit dans les chantiers, c'était quand même assez particulier. Il y en a aussi, bon, une anecdote, il y avait aussi... il y avait une scène où on avait 2 caméras, et il y a une caméra qui devait être positionnée en haut de la grue. Et le cadreur, il avait une phobie de la hauteur, donc il m'a dit que pendant 2 heures, il était coincé en haut et il tremblait. Et ses jambes tremblaient, sa caméra était fixe, mais voilà, il a eu très peur et comme ça a mis un peu de temps, il était coincé pendant plus de 2 heures la nuit en haut de la grue avec sa caméra dans le froid.
On va voir le résultat. En tout cas, ça s'appelle Grand Ciel, ça sort mercredi dans les salles. Le nouveau film d'Akihiro Hataki est avec nous aujourd'hui pour en parler. Damien Bonnard, Samir Ghesmi, Mouna Solem et plein d'autres évidemment dans ce film qu'on vous invite à aller découvrir en salle au cinéma. Merci beaucoup Akihiro d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Et à bientôt.
À bientôt.
Grand Ciel sera le tout premier Smart District en France. C'est une incroyable opportunité pour notre ville et notre région. Un quartier d'un genre nouveau. Écologiquement responsable, sûr et centré sur l'innovation, l'emploi et les divertissements.
J'ai jamais vu ça, ça s'effrite de partout.
Ça va Ousmane ?
Ouais, ouais, ça va.
On va habiter à Grand Ciel quand ce sera fini ?
Faut qu'on travaille pour ça. Faut qu'on travaille comme des chiens.
Passant, on n'a pas de nouvelles d'Ousmane. Tu continues au mois 6 la semaine prochaine. C'est bon pour toi ?
Ouais, bien sûr. C'est celui-ci. Mais vous l'avez pas vu depuis quand ?
Oh, je pense depuis 3 jours, il n'est pas.
Vous voulez voir les flics, non ? Mais les flics, ils s'en foutent, sans papier.
Comment ça, tu sais pas où il est ?
C'est pas la première fois qu'un intérimaire se tire comme ça. Hein.
Les patrons, ils sont organisés, donc nous aussi, il faut qu'on soit organisés. Faut qu'on se serve de ce groupe dès qu'il y a un problème.
Vous voulez qu'on se fasse tous virer ou quoi ?
Allez, notre coup de cœur cinéma est consacré à Ludovic qui sort en salle ce 21 janvier avec René-Paul Letzgus, le réalisateur qui est avec nous. Bonjour René-Paul.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'être là et d'être avec nous. Très agréable en tout cas de découvrir et de faire cette plongée dans le monde de la musique classique et dans un monde peut-être assez méconnu des téléspectateurs ou des spectateurs comme celui des barytons, de ceux qui ont un don absolument hors norme, celui de leur voix et des émotions qu'ils peuvent procurer à travers leur spectacle. Et là, on y découvre ce parcours de Ludovic Tézier en tout cas, qui est absolument incroyable. Qu'est-ce qui vous a déjà donné envie, René-Paul, d'aller explorer ce parcours ?
C'est la rencontre avec Ludovic et Cassandre, donc qui était une rencontre qui m'a je vais le dire carrément bouleversé pour 2 raisons. D'abord, ça s'est passé dans une église et j'ai appris qu'il donnait un concert pour une œuvre caritative et ça m'a déjà touché, beaucoup touché, parce que comme j'ai fait des films sur le handicap notamment, donc je suis un peu concerné par ce sujet-là et donc eux ils ont voulu aider justement des handicapés et puis des gens qui ont des problèmes. Ça c'est la première chose. Et puis évidemment, tout de suite après, on ne peut être que bouleversé lorsqu'on entend la voix de Ludovic et avec Cassandre ensemble. C'est une voix extraordinaire, qui est une voix verdienne, c'est-à-dire avec le timbre vraiment un peu italien. Donc ça, c'est en ce qui concerne le timbre et puis surtout ce qu'il chante. Et comme il adore chanter Verdi, il chante autre chose. Et ça m'a beaucoup touché parce que quand tu connais l'histoire de Verdi, ce qui s'est passé dans sa famille, et donc que lui, il chante ça parce qu'il évoque ses problèmes de société, de famille. Comme il dit, j'ai père de famille, et moi-même, alors donc je suis plongé là-dedans. Et puis la deuxième chose, c'est la politique. C'est que Verdi était du côté de Garibaldi, il s'est battu pour la liberté. Et Ludovic, c'est quelqu'un de libre. Il veut absolument pas être attaché à quoi que ce soit. Quoi. Ça veut dire que lui, il veut exprimer sa liberté, et il exprime sa liberté par le chant, tout en respectant autrui, quoi.
Voilà. Et c'est ça qui vous a donné envie justement d'aller explorer tout son univers, que ça soit univers privé, familial, professionnel. Comment on arrive à convaincre quelqu'un comme lui de se livrer comme ça et de se laisser suivre par les caméras pendant des mois?
En fait, je sais pas si c'est un don, mais c'est vrai que je sais pas si vous savez ce que j'ai fait comme film, mais c'est les mêmes questions m'ont été posées il y a une vingtaine d'années par un journaliste de Nice Matin qui m'avait demandé comment est-ce que tu as réussi à faire un film sur Zidane alors que personne n'a réussi. Chez France 2, on m'a posé Bilagnan, le journal, le patron m'a dit la même chose, mais nous, on a essayé 50 fois de faire quelque chose avec lui. Je ne peux pas m'expliquer. C'est l'approche, c'est, alors, contrairement à ce que j'exprime maintenant, je parle. Moi, je suis quelqu'un de un peu taiseux. C'est-à-dire, quand vous parlez, je vous laisse parler et je vous écoute avec beaucoup d'attention. Moi, je peux passer un déjeuner avec Ludovic en le laissant parler. Et je pense que c'est ça qui fait peut-être que je sais écouter les gens. Puis je les laisse parler, je les laisse s'exprimer. Je veux dire aussi qu'on avait deux autres centres d'intérêt. En dehors de la musique, c'était le cinéma et c'était la passion de la voiture ancienne. Donc, en l'occurrence, Bugatti, puisque moi, je suis né dans le coin de l'usine Bugatti en Alsace. Et lui, il est venu habiter là, venant de Marseille, il est venu habiter dans le coin. On s'est jamais croisé, mais vraiment jamais croisé, sauf au cinéma. Et donc, ce qui nous a rapprochés en parlant cinéma et en parlant musique et puis en parlant vieille voiture.
C'est vrai qu'il y a un bel hommage, mine de rien, à Bugatti, à tout ça, à l'Italie, puisque le film commence en Italie, à Milan.
Exactement, mais ça s'explique. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai fait un film sur Bugatti pour Arte. Et donc, Bugatti, c'est un peu, c'est Verdi, c'est un peu Ludovic ou l'inverse. Il faut une excellence dans le geste. Il faut une excellence dans le travail, il faut une excellence dans la complicité et le travail avec une équipe pour construire une voiture. Et c'est un peu ce qu'a Ludovic, c'est-à-dire il a cette qualité d'être parfait, d'aller jusqu'au fond des choses lorsqu'il prépare un concert. Il va jusqu'au bout, c'est un travailleur infatigable et c'est surtout dans la justesse, un peu comme dans le geste quand on construit une voiture, un moteur de voiture. La justesse, non pas de geste, mais le justesse de la voix. Et c'est ça qui fait que je me suis dit, tiens, il y a quelque chose, c'est marrant, pourquoi est-ce qu'il habite là, juste à côté? Est-ce que ce serait pas un hasard, hein? Moi, je suis croyant, donc je dis des fois, un hasard, c'est quand le bon Dieu se promène incognito sur terre. Là, ça se passe dans une chapelle, j'ai dit, tiens, dans l'église. Et je me dis, est-ce que c'est vraiment un hasard qu'il ait un peu les mêmes qualités des Toro Bugatti? Et tout ça, on en a parlé, et puis oui. Puis
ça tisse des liens, mine de rien, tout ça. C'est vrai que, Ludovic Tézier est l'un des plus grand chanteur lyrique contemporain de sa génération et on découvre un homme d'une simplicité et surtout complètement capté aussi par sa muse Cassandre. Ils se sont rencontrés dans le domaine du travail et on sent que c'est une source d'inspiration pour lui absolument intarissable. C'est beau de voir cet amour des deux comme ça vogué par une même passion qu'est la musique classique et à la fois on découvre un homme aussi assez sûr de lui malgré tout. Parce que voilà, c'est que moi j'aime bien quand dans le film on lui demande s'il a le trac et qu'il dit non, je n'ai pas le trac parce que le trac c'est pour ceux qui doutent, qui sont pas bien préparés. Et lui il y va comme ça, il dit à partir du moment où que tout est bien cadré, tout est bien, il n'y a pas de raison de s'inquiéter.
Il a certainement raison, mais moi je lui ai donné tort parce que je lui dis moi j'ai fait un film qui est peut-être pas qui n'est pas dans l'excellence mais qui la frôle et j'ai le trac moi. Donc ça veut dire que si je dois m'exprimer peut-être pas, là, ça se remarque peut-être pas, mais quand je dois m'exprimer dans le trac, et pourtant je connais mon histoire. C'est pas un hasard si le film est construit avec une précision extrême dans le tournage, dans le montage et tout ça. Donc, je pense que j'ai fait bien mon travail, très bien fait mon travail, et j'ai quand même le trac.
Vous avez eu accès aux plus beaux opéras d'Europe, et puis surtout une fin d'apothéose avec le grand concert de Paris, avec des images absolument époustouflantes. Le fait de pouvoir suivre Ludovic dans ce film vous a donné effectivement la possibilité de filmer ces endroits absolument somptueux, quoi.
Oui, alors il faut dire aussi que si on a pu filmer tout ça, c'est que Ludovic m'a dit, moi je t'appelle et je te dis, j'ai discuté avec Dominique Meyer à Milan, qui est le patron de l'Opéra de Milan, je lui ai dit, tiens, j'ai quelqu'un qui veut faire un film avec moi et sur moi et qu'il aimerait filmer à Milan. Et puis il me téléphone, il dit, écoute, tu peux envoyer un mot à Dominique Meyer et il te dira oui parce que j'ai obtenu l'autorisation. Il l'emmène même à l'Opéra de Paris. Ludovic connaît tout le monde. Il est aimé par tout le monde, il aime tout le monde. Et du coup, il m'a obtenu les autorisations. Quand j'arrivais dans un opéra comme Paris, prenons l'exemple, eh ben les gens m'attendaient. J'avais toujours un petit toutou avec, parce qu'ils me disaient toujours, vous savez, c'est très protégé, il y a les syndicats et tout ça, alors tu peux pas tout filmer. Il y a des gens qui disent, non, je vais pas être filmé, alors donc...
C'est ça qu'on voit des fois des gens qui s'écartent un peu pour pas passer dans le champ. C'est vrai que ça peut être des fois compliqué.
Mais globalement, c'est bon, une expression qu'il disait toujours. Il dit toujours, bon, je vous présente le boss, hein, c'est lui. C'est lui qui... voilà, c'est pas moi. Alors, j'ai dit, c'est toi qui chante, mais je suis plus le boss, c'est toi, pour cette journée, pour faire ton film. Et donc je passais pour ça et je pouvais pas faire ce que je voulais, bien sûr, mais placer mes caméras, je pense que vous avez remarqué les angles, les axes des fois, quand vous regardez Rigoletto, la rigueur et la précision avec lesquelles les caméramans étaient placés. Nous avons eu accès quand même aux meilleurs endroits qu'on souhaitait.
Il y a oui, parce qu'il n'y avait pas besoin, il n'y avait pas possibilité de la refaire deux fois. Hein.
Non, c'est ça. Mais moi, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai vraiment des cadreurs qui sont cadreurs et preneurs de son qui sont formidables. Moi, je rends un hommage à mon équipe qui me fait confiance à moi et moi, je leur fais entièrement confiance.
En tout cas, on a beaucoup de chance, nous, de découvrir ce parcours de Ludovic Thésier, ce baryton, l'un des plus grands chanteurs lyriques qui est au sommet de sa carrière, qu'on espère découvrir sur scène, peut-être dans nos régions. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très demandé. Vous allez découvrir, en tout cas, son destin absolument hors norme et son quotidien, à la fois en toute simplicité, dans ce film de René-Paul, Let's Gus, qui sortira en salle ce 21 janvier. Merci René-Paul d'avoir été avec nous. Et on va se quitter avec la bande-annonce, bien évidemment. Je vous dis à très bientôt.
Merci Alain.
Lorsque tu ouvres une partition nouvelle, très longue, tu tournes les pages, ça n'en finit pas, il y a des aigus partout, tu dis, mais est-ce que je vais y arriver? Et le soir, où tu t'apprêtes à rentrer en scène, faut plus de doute. Sinon, c'est que tu ne t'es pas bien préparé. Je joue des personnages qui sont sexistes, racistes, machos. Je les joue parce que ces personnages-là, en scène, sont là pour être l'exemplarité de ce qu'il ne faut pas faire.
Il va au fond des choses, y compris défendre un salopard. Quand on s'est rencontrés sur scène en répétition, il s'est passé une chose absolument extraordinaire. Et au bout d'un moment, on s'est rendu à l'évidence qu'on ne pouvait pas vivre l'un sans l'autre au sens du détachement impossible. Quand tu avais fait la Traviata, j'étais en coulisses tous les soirs et tous les soirs, je pleurais.
Jolie à l'opéra, c'est loin d'être suffisant.
La musique est comme ça, mon amour, c'est une fête. Tu prends vraiment l'âme.
Même beau, c'est encore juste. À l'opéra, on doit sortir, non pas transformer. On doit sortir bouleversé.
Allez, ne bougez pas, on parle de la série Le Diplôme dans un instant, des apprentis champions au ski qui démarre sur W9 avec aujourd'hui Philippe Candelroux et Louison. Et Lou Deleuze, la grande gagnante de l'Eurovision Junior, nous rejoint en fin d'émission.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, revient dans un instant. A tout de suite, le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Regarde tout ce qu'on avait, que nous reste-t-il, la flamme encore allumée, vas-y. Quand ta vie ne tournera pas rond, je ne serai pas loin. Qu'importe le vent, la saison, je lâcherai pas ta main. Tu seras ma plus belle chanson, mon plus beau refrain. La recette, si tu reviens. J'aimerais te serrer dans mes bras, te dire que la vie est une fête. Passer nos journées sous les draps, d'une nuit blanche à perdre la tête. Et on fera comme au cinéma.
comme au cinéma. C'est toi ma vedette, toi et moi on a la recette.
J'aimerais te serrer dans mes bras, te dire que la vie est une fête. Passer nos journées sous les bras, des nuits blanches à perdre la tête. Et on fera comme au cinéma, oui c'est toi ma vedette. Toi et moi on a la recette.
Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé. Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, on est très heureux en tout cas de passer quelques minutes avec notre mentaliste préféré. C'est un habitué de l'émission, Fabien Olicard, qui nous rejoint. Bonjour Fabien.
Salut, vous allez bien ?
Oui, je suis très heureux de t'avoir avec nous parce qu'évidemment, en plus, on est issus de la même région tous les deux, Charente-Maritime, évidemment, en force.
Bien sûr, oui. Et c'est un endroit où il fait très bon vivre. J'ai toujours l'impression d'être chauvin quand on en parle, mais
c'est vrai.
J'aime tous les coins de France, mais j'aime bien être à La Rochelle, c'est vrai.
Alors, je t'avoue, Fabien, alors il y a des spectacles évidemment qu'à tourner, il y a une tournée des Zéniths en début d'année 2025, mais là maintenant c'est le livre qui nous attend pour ces fêtes de fin d'année, et il y en a un qui me parle particulièrement, Révolutionner votre vie, ce livre qui vous fera gagner du temps, Fabien, et en fait tu expliques dans ce livre comment on peut optimiser notre temps pour aujourd'hui avoir une vie peut-être un peu plus apaisée. C'est vrai qu'aujourd'hui on court tous après le temps.
C'est super bien résumé en fait, gérer son temps c'est pas forcément pour en faire plus, pour être plus productif, c'est pour moins subir cette pression et faire ce qui compte vraiment, à savoir vivre. En fait, juste vivre au quotidien, faire ce qu'on aime. Moi, par exemple, pour parler de La Rochelle, j'adore faire de la voile. Quel dommage si, en gérant mal mon temps, j'ai pas le temps de faire de la voile dans la semaine. C'est ça qui me rendrait malheureux. Et souvent, le temps... Alors, il y a des vraies contraintes, hein, les jeunes parents le savent, par exemple. Mais le temps, c'est souvent un problème de perception et de priorité, finalement. Et c'est de ça que je parle dans le livre, de notre rapport au temps.
Oui, c'est ça que tu expliques, hein. On a tous l'impression qu'on est prisonnier d'un rythme effréné. Mais est-ce que c'est la réalité ?
C'est pas tout à fait la réalité. Et là, je sens des gens derrière leur radio qui disent « Ah oui, bah viens dans ma vie et tu verras ». Alors, je ne dis pas que c'est pas une partie de la réalité, mais c'est qu'une partie. La réalité, ça se reconstruit en fait. Des fois, on se met la rate au corbouillon pour des choses... Ben en fait, quand on se dit, mais il y a que moi qui m'impose ça, il y a que moi qui me dit qu'il faut que je cours pour faire ceci et cela. Est-ce que vraiment c'est si grave si le matin je décide, ben, en fait, que la première heure de ma journée, je n'allume pas mon téléphone portable? Et ben vous allez voir que c'est quelque chose, ça par exemple, qui change tout son rapport au temps, de ne pas allumer son téléphone portable la première heure de sa journée. Pourtant, on n'a rien changé de son programme, mais ça change tout.
Et oui, et ça fait gagner du temps. Tu donnes tout plein de petits tips justement pour tenter de gagner du temps. On peut prendre des notes aussi, hein, à la fin du livre justement, et sur ce qu'on a pu en gagner de ce livre. On peut noter aussi, hein, c'est interactif finalement.
Oui, il y a même des tests au départ pour voir un petit peu où on en est vis-à-vis du temps, tout ça. Plus ça va, plus dans mes livres je mets quelque chose que tu connais bien à la radio, c'est de l'interaction pour ne pas perdre l'attention des gens. Parce que ça aussi, dans notre rapport au temps, eh bien, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'attention doit être restimulée toutes les 5 minutes. Parce que sinon, on perd la personne en face. Ça, c'est un peu les réseaux sociaux qui nous ont emmenés là-dedans, de toujours switcher et passer à autre chose. Et ces réseaux...
De swiper, comme on dit aujourd'hui.
Exactement. Et ça, bizarrement, on a une heure pour le faire, pour swiper. Alors que finalement, cette heure-là, c'était peut-être pour faire le truc qui nous rendait heureux, pour jouer avec ses enfants, pour parler avec ses amis, pour faire une activité qui nous stimule. Donc ça se reprogramme, mais c'est pas un livre culpabilisant. On n'est pas là pour juger, on est là pour trouver des solutions.
Exactement, et pour essayer justement d'avoir des clés. Quelles sont les, allez, une ou deux clés concrètes aujourd'hui qu'il y a dans le livre qui peut nous aider à gagner du temps ?
Allez, on va dire les deux plus intéressantes pour moi sont la première, passer votre téléphone portable en mode noir et blanc.
J'ai cru que tu allais dire par la fenêtre.
Ça peut être une solution. Mais moi, j'aime trop la technologie pour ça. Non, en noir et blanc. Et vous allez voir qu'en le passant en noir et blanc dans les réglages, vous allez passer 3 fois moins de temps dessus. Juste parce que vous avez enlevé la couleur. Et le livre vous explique pourquoi, mais c'est assez intéressant. Et la deuxième vraie bonne astuce à mettre en place au quotidien, c'est très probablement, je pense, de décider le soir de ne regarder qu'un épisode d'une série ou qu'un film. En fait, on a pris l'habitude que ce soit complètement ok de regarder 3-4 épisodes d'affilée d'une série Netflix, par exemple. Mais il y a quelques années, on était obligé d'attendre la semaine d'après pour regarder l'épisode
suivant. Bah oui, on ne binge-watchait pas.
Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on faisait ? Eh bien, on se couchait un peu plus tôt ou on lisait dans le lit. Et en fait, on se rend compte qu'avec les séries télé et les films qui sont à profusion aujourd'hui en disponibilité, on se couche plus tard, on a moins de sommeil, donc moins d'attention le lendemain, donc une perception du temps déformée. Donc voilà, on regarde un film ou deux épisodes d'une série grand max le soir, ça change beaucoup de choses.
Surtout qu'il y a beaucoup de chaînes maintenant qui nous mettent plus qu'un épisode inédit, donc rien de tel qu'après le premier épisode vers 22h10, de prendre le livre de Fabien Olicard et de comprendre comment on peut gagner du temps. Deuxième livre, Les entrailles du temps. Alors là aussi, c'est une aventure immersive, mais c'est pas le premier tome, hein, c'est une suite.
Exactement, alors c'est à la fois Les entrailles du temps, vous avez vu, il y a une obsession sur le temps. Hein,
ouais, je vois ça, que 2025 c'est le temps.
C'est ça. Donc soit on peut faire ce livre complètement indépendamment, c'est dans la même lignée que les livres dont vous êtes le héros, il peut se faire en toute indépendance. Si on a l'âme de lire une saga, alors effectivement c'est la suite logique de l'Arbre des quatre saisons, puis de la Confrérie du Nuada, puis des entrailles du temps. Il y a un ordre dans tout ça, c'est la même histoire, le même personnage, mais le livre au début pose la question, est-ce qu'on a lu les précédents ou pas? Si on n'a pas lu, eh bien, c'est un peu comme pour les séries, résumé des épisodes précédents, et on peut embarquer directement dedans. Donc à la fin de chaque chapitre, on prend une décision qui va impacter l'histoire et qui va faire qu'au fur et à mesure du livre, on va vivre sa propre histoire en tant qu'héros. Le lecteur ou la lectrice, c'est le héros de l'histoire qui vit vraiment les choses, qui prend des risques et attention, qui peut même mourir.
Alors, c'est imaginé, toutes ces aventures sont imaginées par toi. Moi, j'ai l'impression, Fabien, c'est ça que je trouve génial avec toi, c'est qu'on a l'impression que ton imagination, elle est sans limite.
Je pense que oui, mais je pense que je suis en plus né à la bonne génération, c'est-à-dire qu'en plus, moi, je peux transformer ça en projet créatif, quoi. Un spectacle, un livre, une vidéo. Pour moi, c'est toujours le même processus de création avec des supports très différents. Donc, j'ai la chance de beaucoup m'amuser avec ça, tu as raison.
Les livres à ne pas manquer, justement Les entrailles du temps, nouvel opus de l'aventure immersive dans laquelle vous prendrez des décisions, c'est interactif, Fabien Olicard, et ce livre qui vous fera gagner du temps, c'est sûr, j'espère, pour révolutionner votre vie. Juste un petit mot pour terminer, quand c'est qu'on monte sur scène, Fabien? On a déjà hâte de te retrouver, j'espère 2026.
Pause à durée indéterminée, hein, j'ai dit, hein, alors... 2027, c'est sûr qu'il y aura des choses, mais peut-être que 2026, il y a une petite surprise sur un mois.
Bon, on aura le temps de s'en reparler. En tout cas, j'espère, on aura le plaisir de te réaccueillir, j'en suis sûr. Merci à toi et on se dit à bientôt.
À très bientôt, merci beaucoup.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé est consacré à la série Le Diplôme qui revient pour sa deuxième soirée épisode 3 et 4. Et notre invité aujourd'hui, et c'est Suzy Deschamps qui est avec nous, qui joue le rôle d'Agnès. Bonjour Suzy.
Mais bonjour, merci de me recevoir.
Mais moi je suis toujours très heureux de te retrouver. On avait fait connaissance à l'Alpe d'Huez où tu avais fait sensation sur un court-métrage. Alors Le Diplôme, c'est une belle aventure. C'est une série où on rappelle que vous avez des adultes qui ont décidé de repasser leur bac avec chacun des histoires riches, difficiles, des passés des fois douloureux, des présents douloureux aussi, comme pour le personnage de Clémentine. C'est l'arrière qu'on a pu voir la semaine dernière qui s'est fait pas mal malmener. Et puis ce rôle d'Agnès, comment tu pourrais le définir toi Suzy?
Ce rôle d'Agnès pour moi c'est un peu une parenthèse comique on va dire quand les personnages se retrouvent dans la classe en fait. C'est la première de la classe, c'est la bonne élève mais qu'on a un peu envie de...
De claquer?
De claquer, ouais voilà.
Moi j'adore, c'est quand elle lève le doigt, elle dit moi. Ben, en fait, elle attend vraiment que ça soit elle, mais bon, ben, ça tombe une fois sur dix, quoi.
Mais moi j'adore ces personnages. Elle est vraiment. Alors, je sais pas si elle va être vraiment attachante, mais en tout cas, moi elle me fait de la peine. En même temps, je l'aime beaucoup. C'était super à jouer, en tout cas.
C'est vrai que sur les sujets douloureux qui sont abordés quand même dans cette série, ouais, malgré tout, t'es vraiment la parenthèse un peu comédie qui permet de lâcher aussi des soupapes.
Oui, c'est ça, c'est une bouffée d'oxygène dans cette série qui a beaucoup de scènes dramatiques et voilà. Et
c'est ça qui t'a plu?
Moi, j'ai beaucoup aimé jouer ça, ouais.
Rencontre avec Clémentine, avec Camille Lelouch et tout, comment ça s'est passé tout ça?
C'était une équipe vraiment formidable, je connaissais personne. Moi, je suis un bébé hein, là-dedans, tu vois, donc j'arrive vraiment, je connais personne et Clémentine est comme on l'imagine. Adorable, généreuse, tout le monde, toute l'équipe. Camille Lelouch, Guillaume Labbé, Julie Sassou, Bernard Campan, j'adore. Tout le monde était vraiment très sympa, ils m'ont beaucoup accueilli avec beaucoup de gentillesse, quoi.
Et puis, quand même, franchement, tourner sous la houlette de Philippe Lefebvre.
Il est génial, Philippe. Non, il laisse beaucoup de liberté, il fait confiance, il est dans le dialogue, il est dans la générosité. Et Vianney aussi, Vianney, très belle rencontre.
Comment tu l'as construit ce personnage d'Agnès justement? Est-ce que tu t'es approprié des choses? Est-ce que tu as pu proposer aussi des choses?
Alors moi j'ai commencé à proposer vraiment quelque chose, je me suis dit ça passe ou ça casse et c'était au casting. Je suis arrivée avec le personnage, avec un changement de voix, avec vraiment un accoutrement et écoute ça l'a fait. Et je me suis dit bon bah si on me dit rien d'autre c'est peut-être qu'il faut que je garde ce personnage parce que des fois on te demande de changer tu vois. Et là non, ils ont complètement acheté le perso et c'était une liberté incroyable.
T'es arrivée à faire rire les autres un peu quand même sur tes scènes que t'avais, ça les faisait rire?
On était morts de rire. Non, parce qu'on m'a laissé beaucoup improviser et ça, franchement, pour une comédienne, c'est jouissif, franchement. Et il y a des moments où il y a eu des gros fous rires. Ouais. Même moi, je suis partie en fous rires sur des trucs qui n'étaient pas prévus. Et on s'est bien marré.
C'est vrai qu'on sait pas grand-chose quand même sur le passé d'Agnès et sur ses motivations qui font que aujourd'hui, elle veut le repasser son bac.
En fait, elle a passé son bac à 18 ans, mais elle l'a pas eu. Si elle l'a eu, mais
c'est pas avec la mention qu'elle voulait.
C'est ça.
Il manquait la mention.
C'est encore plus drôle. Elle vient juste pour avoir la mention. Donc elle n'a rien à faire là, en fait. Elle a son bac. Mais il lui faut le titre honorifique, quoi.
Ça me fait rire parce que c'est vraiment la première de la classe tout le temps, toujours devant et tout. Et c'est vrai qu'elle est tellement drôle. En tout cas, c'est un grand plaisir de pouvoir découvrir ce personnage. Et j'imagine effectivement que les autres, ils ont dû des fois avoir du mal à garder leur calme. Est-ce que toi, à un moment donné, il y a une scène que tu as eu du mal à mettre en boîte ?
Moi, il y en a une où j'ai craqué quand ça tournait, parce que bon, on essaye de garder son calme et son professionnel, on va dire.
Oui, et puis il y a des histoires chargées quand même aussi. Hein.
Oui, mais en fait, le personnage d'Agnès ne connaît pas les histoires qui se passent autour. Il y a une scène où je me rends compte que Delphine fait quelque chose, donc le personnage de Clémentine Salarié. Il y a juste un regard où je vois qu'elle fait quelque chose. Et celui-là, je me suis vue d'en haut avec ma tête horrible là, et on a explosé de rire. Toute l'équipe a explosé de rire. Tu verras. Tu m'en parleras.
J'ai hâte de découvrir ça, c'est la semaine prochaine hein, puisqu'on découvrira le final évidemment. On aura d'ailleurs Ahmad qui joue le rôle du Syrien justement, qui doit faire valider son examen et tout. Et il y a des histoires vraiment très très belles en tout cas sur le diplôme. Alors, on va pas spoiler quand même ce qui va se passer, mais alors, elle va l'avoir son bac ou pas?
Ah mais moi je peux rien dire, faut regarder.
On verra bien.
On verra bien.
C'est pas mal ça. Les projets, Suzy?
Eh ben écoute, j'ai réalisé un court-métrage au mois de mars qui s'appelle « Il n'y a pas de petit rôle ». Et voilà, maintenant je le mets en festival, peut-être qu'on se recroisera.
Mais écoute, j'espère bien. C'est vrai que, alors, on avait beaucoup rigolé ensemble. C'était au Festival de l'Alpe d'Huez parce qu'il y avait vraiment un court métrage, mais qui était à mourir de rire. Où ton personnage, il s'appelait Gros cul.
Gros cul, ouais, gros cul.
Gros cul. Et en fait, tout le monde disait gros cul. C'était incroyable.
C'est un court métrage qui durait 3 minutes 30 et qui s'appelait Quiproquo.
Et qui était d'une efficacité dingue.
Ah oh bah merci, hein. En tout cas ouais, la salle a bien ri donc ça faisait plaisir.
Et si les auditeurs là ont envie d'aller le voir justement, est-ce qu'il est disponible quelque part? Est-ce qu'il y a une plateforme ou YouTube ou quelque part où on peut le voir?
Oui, maintenant il est sur YouTube.
Alors vous tapez sur YouTube tout simplement Quiproquo, hein, comme un quiproquo, Suzy Deschamps, voilà Mathieu Lestrade, et vous allez découvrir en tout cas ce super court métrage. C'est efficace, 3 minutes, on dirait une série courte, mais en tout cas vous allez rire c'est sûr en découvrant son personnage. Et puis on te découvre en tout cas encore une fois dans la suite. Le diplôme c'est ce soir à 21h10 sur TF1 pour l'épisode 3 et 4. Et puis on te souhaite plein de belles choses. Suzy, à bientôt.
Mais merci, à bientôt, avec grand plaisir.
Et tout de suite, un petit extrait, c'est pour vous.
Intégrer notre lycée, c'est s'engager à venir tous les jours de 18h à 22h.
Passer le bac à nos âges, c'est la honte.
Ce n'est pas courageux, moi, au contraire.
Ouais, oh, je crois que je suis trop vieux pour ces conneries.
Est-ce qu'avoir le bac est vital pour vous, Madame Gilbert?
J'ai l'impression d'avoir 18 ans.
Alors, rassurez-vous, ça se voit pas.
Le Diplôme, votre nouvelle série inédite, prochainement sur TF1.
Allez, c'est notre coup de cœur télé ce soir, les apprentis champions au ski démarrent sur W9 à 17h40. Deux coachs de talent, Soria Bonalli et Philippe Cornelro qui est avec nous. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, une émission totalement nouvelle qu'on va découvrir. C'est la deuxième saison qu'on va découvrir de cette aventure où tu as coaché pas mal de candidats haut en couleur, on va dire. Qu'est-ce qui t'a décidé? Qu'est-ce qui t'a donné envie, en tout cas, d'aller dans cette aventure?
Bien, par chance, il y a eu effectivement la première saison qui était les apprentis champions au sport d'été. Juste avant 2024, c'était une volonté de W9 de sortir ce programme. Et puis, ils se sont dit, comme il y a les Jeux Olympiques en février qui arrivent là à Milan Cortina, ils se sont dit, bah, pourquoi pas faire la même version en hiver avec du ski, du patinage pour des apprentis champions. Alors, effectivement, il y avait pas mal d'apprentis, il y avait certains qui avaient des aptitudes déjà sportives et physiques, donc on a pu les exploiter avec Souria. J'ai adoré tourner cette émission parce que ça me faisait plaisir d'être à côté de Souria. Et puis ça m'a plongé dans un univers un peu que je maîtrise moins, puisque je suis pas coach tous les jours. Moi j'entraîne des petits gamins de temps en temps quand je sors de l'entraînement, mais je suis pas un professeur. Pourtant j'ai un diplôme, j'aurais la capacité de le faire, mais là il a fallu que je gère en fait des tempéraments, des personnalités
qu'ont autant couleur
qu'ont des grandes gueules, qu'ont pas forcément parfois envie de travailler. Donc, mais j'avoue que j'ai une équipe, l'équipe des jaunes, je ferai partie de l'équipe des jaunes, et j'avoue qu'ils m'ont pas déçu parce qu'ils sont allés au bout de leurs objectifs, chacun, les uns et les autres, avec leurs capacités physiques qu'ils avaient en leur possession. Et puis ils m'ont bien aimé, ils m'ont pas obligé à gueuler. Donc ça c'est plutôt pas mal, parce que ça veut dire qu'il y avait une bonne osmose, il y avait une bonne écoute, et il y avait des gens qui me faisaient plaisir parce que sportivement ils étaient en train de se défoncer.
T'as été étonné par certains d'entre eux?
Ah, quand même, oui, en termes de, surtout sur les épreuves de patinage, parce que le ski, on se dit que tout le monde sait un peu skier en chasse-neige, machin. Mais le patinage, c'est quand même une discipline qui est extrêmement difficile. Faut maintenir l'équilibre. Et puis après, faut vaincre sa peur. Faut pouvoir faire des choses artistiques parce que il y avait une obligation de faire des passages en couple. Donc, alors des couples, il y en a qui ont essayé de porter, mais quand tu maîtrises pas, c'est quand même pas si évident que ça. Patinage de vitesse aussi. Moi, mon équipe, elle a été excellente, mais elle a pris des sanctions. Donc, du coup, des fois, ça gueule parce qu'il y a, évidemment, ça gueule contre qui ? Contre les juges de ligne ou les juges qui chronomètent ou les juges qui mettent des sanctions parce qu'on n'a pas respecté une règle. Bon, bah voilà, ça fait partie du jeu. C'est une émission assez sympathique, je pense, au final. Moi, évidemment, j'étais dans le tournage pour être coach, pas dans la vie sociale des candidats.
On va en parler de la vie sociale avec Louison qui va nous rejoindre dans un instant, hein, qui est un de tes poulains, je crois.
Oui, alors Louison, tiens, tu me demandais si quelqu'un m'avait un peu épaté, bah c'est Louison parce que oui, forcément, tout le monde le charriait par un peu sa corpulence. Il disait toujours Louison avec grâce et graisse, machin. Alors c'est, je trouvais ça un peu dur quand même parce qu'ils étaient souvent en train de le charrier.
Et il a épaté la galerie dans Pékin Express quand même, le garçon. Hein.
Alors que c'est celui qui, moi, m'a peut-être le plus épaté dans le sens où sportivement, il s'est surpassé. Il a vaincu sa peur au patinage. C'était pas quelqu'un qui savait patiner, mais franchement, vous verrez, les images, c'est à décoiffer.
On a déjà hâte d'avoir ça. Faire une émission avec Soria, j'imagine le bonheur que ça doit être aussi, tous les deux. Vous avez pu vous croiser beaucoup, même si vous coachiez deux équipes différentes.
Avec Soria, on a fait toute notre carrière ensemble. Vous demandez à quelqu'un dans la rue, des patineurs connus, ils disent Bonali, Candeloro. Donc c'est sûr que nous, ça nous fait plaisir quand on se retrouve, parce que Soria, ça fait plus de 20 ans qu'elle est aux États-Unis. On s'est revus évidemment entre-temps, hein, mais là, on a passé des bons moments ensemble, parce qu'on n'était pas dans le combat l'un et l'autre, parce qu'on était en train d'essayer de motiver en fait 6 candidats de chacune des équipes, 8 même candidats de chaque équipe, et c'est pas si évident parce que chacun a ses motivations propres ou pas, donc c'est là où on va peut-être découvrir les talents de Soria comme les miens à l'antenne dans l'émission de W9 Apprenti Champion au sport d'hiver.
Exactement, c'est à 17h40 dès ce soir. Ne manquez pas évidemment le tout premier épisode. Il est déjà en avant-première d'ailleurs sur Sisplay. Philippe, on va parler un peu de la Candeloro Show quand même, juste avant de se quitter, puisque là aussi ça tourne partout en France. C'était un dénicheur de talent en matière de patinage.
Candeloro Show Company, ça fait plus de 15 ans que ça existe, hein. Ça avait débuté avec Ice Candel Art. Après c'est passé à Candeloro Show Company. Aujourd'hui on est un peu dans la difficulté, dans le sens où Philippe Candeloro va devoir un peu passer à autre chose. Il a 53 ans avec deux prothèses de hanche, une chute sur le saut périurieur en juin dernier, c'est des signes qui peut-être je dois prendre en considération, donc je me pose la question. En revanche, je vais partir sur un projet un peu fou, c'est que je vais me lancer à la candidature de la présidence de la Fédération Française des Sports de Glace.
Tu m'as fait peur.
Non, je vais y aller par étapes.
Ouais, step by step.
C'est d'abord président de Fédé, après peut-être ministre, et après peut-être on visera au-dessus. Juste pour dire que, en fait, parce qu'il y a les Jeux Olympiques en 2030 que la France va accueillir, et 2030 sera un tremplin pour les Olympiades de 2034. Moi, j'ai une vision à 2034 en me servant de 2030 pour aller faire des patinoires, que la Fédération et des moyens financiers à travers des événements, parce qu'on doit développer toutes les disciplines des sports de glace, pas seulement les disciplines d'expression qui sont le patinage artistique que tout le monde adore regarder, mais il y a aussi le short track, vous avez le curling qu'il faut développer, vous avez le ballet sur glace, le patinage synchronisé, donc toutes ces disciplines, elles méritent autant d'être visibles que le patinage artistique.
C'est ça qui est chouette, et puis c'est vrai que dans tous tes spectacles, du coup, même si tu peux plus faire trop de salto arrière, ma foi, t'animes, et ça pour le plus grand bonheur des gens finalement.
J'ai l'impression qu'ils m'aiment autant m'entendre parler que de me voir patiner. Alors si je peux arriver encore à faire les deux, écoutez, ma foi, et puis ça se trouve, je serais peut-être un président de Fédé authentique, atypique, dans le sens où vous avez déjà vu un président de Fédé encore en activité, être capable de faire encore quelques sauts, de pas avoir pris 63 kilos entre l'arrêt de sa carrière et au moment où il prend le poste. J'ai de l'énergie pour ça, en fait. J'aime les sports de glace, j'aime les champions, j'aime les bénévoles, j'aime... cette envie de développer. Donc mon sport, je peux pas l'oublier du jour au lendemain, et je serai toujours très très proche de lui.
Et le public t'oublie pas. En tout cas, on te retrouve dans les Apprentis Champions au ski. C'est dès ce soir à 17h40 en attendant sur W9. Merci beaucoup Philippe. On reçoit ton poulain dans quelques instants. On va écouter la bande annonce, et juste après c'est Louison qui nous rejoint. Merci Philippe.
Merci Alain, et puis j'en profite pour vous souhaiter encore une très belle et heureuse année
2026
avec une belle santé. Voilà, merci à toutes et à tous et bonne soirée.
Bon, les cocos, là. Vous savez qu'on n'est pas là pour rigoler, hein. On veut des champions.
On veut du résultat. Rapidité. Précision.
On veut des triples salcos, des triples lots. C'est pour ça qu'on est là. Et on veut du...
high level.
OK. Qui veut commencer? Ah ouais. C'est pas gagné.
Courage. Les apprentis champions au ski, dès le lundi 19 janvier sur W9.
Allez, chose promise, chose due. Merci Philippe, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et il est là, il est à mes côtés. Louison nous rejoint. Bonjour Louison.
Bonjour.
Mais tu n'arrêtes plus. Tu gagnes le cerveau vendredi. On te retrouve dès ce soir, 17h40 sur W9, dans les apprentis champions au ski. Mais dis donc, plus rien n'arrête Louison, même sans Riyad. Hein.
Ah ben là, c'est parti. Je suis lancé. J'ai eu une victoire. Maintenant, j'ai pas envie de m'arrêter là-dessus. Les apprentis champions, je suis là aussi pour gagner.
Mais oui, mais je vois ça, mais tu n'arrives plus. Alors le cerveau, ça crée aventure quand même. Qu'est-ce qui t'a fait dire oui? Et puis surtout, la satisfaction, la victoire.
Ben, le cerveau, je sais pas. C'était la première aventure que je faisais où je connaissais vraiment personne, où c'était l'inconnu total, où je me suis dit, bon, on va voir comment ça va se passer. Mais le concept me plaisait et ben, j'avais envie de me challenger aussi, voir si je pouvais être le plus gros cerveau de la télé-réalité. Et je le suis.
Eh oui. Bah maintenant t'as plus qu'à faire qui sera le plus nul pour sortir en premier. Sur TF1, ça sera ta prochaine aventure. Bon, en tout cas, les apprentis champions qui débarquent ce soir à 17h40. On en discutait avec Philippe il y a quelques instants. Et il est vrai que là, bah, ça va être une autre aventure. Il va falloir tâcher de tenir debout. Ça va toujours être simple.
Ah ben c'est sûr que là le concept est totalement différent. Hein, là c'est sport et sport d'hiver en plus. Donc ça veut dire que ben va falloir gainer.
Et ça va pas être triste évidemment, surtout avec Philippe Candelero en coach, j'imagine pour toi.
Ah mais Philippe en coach, c'était génial, c'est le meilleur. Ah moi je suis très content de l'avoir eu comme coach, il est hyper drôle. Après il a su nous recadrer quand il fallait, il a su nous faire apprendre, nous faire progresser, c'était vraiment génial. Non franchement, moi je recommence quand tu veux avec Philippe.
Il nous disait il y a quelques instants avoir été très étonné par toi hein, et par ta progression dans l'émission.
Ah bah ça je peux pas trop en dire non plus, hein, faudra que les gens découvrent au fur et à mesure, mais même moi aussi je me suis un peu étonné, et je pense que c'est grâce à Philippe et grâce à l'équipe entière où on a su s'écouter, a su se faire confiance au bon moment, et non franchement c'était une super aventure.
T'avais vu la première saison des Apprentis Champions ou pas du tout? T'es arrivé vraiment totalement novice là?
Je suis arrivé totalement novice, je n'avais absolument pas vu la première saison, donc je savais pas dans quoi je m'embarquais. Je savais que c'était les sports d'hiver, mais bon, ça voulait tout et rien dire en même temps, donc non, c'était vraiment l'inconnu.
J'ai l'impression que toutes les aventures, tu les prends à bras-le-corps, tu t'amuses. Tu te prends pas au sérieux, et c'est peut-être ça aussi la rançon du succès, pourquoi les émissions elles viennent te chercher et que le public adore te voir comme ça à la télé.
Ben, je sais pas, en fait je me dis, à chaque fois c'est un peu du bonus. J'ai eu la chance de faire Pékin Express, et voilà, maintenant je me dis, bah...
Il y a eu ton émission, voilà. Qui peut battre Riyad et Louison.
À chaque fois, c'est du bonus, en fait. J'ai réalisé mon rêve, et maintenant, quand on me propose des nouveaux concepts qui me plaisent, je me dis, bah, pourquoi pas me challenger, mais tout en restant moi-même. J'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre, ou... Non, je veux rester moi-même, je veux vivre le truc au maximum.
Et t'amuser.
Et m'amuser, c'est ça, c'est le principal.
Alors les apprentis champions au ski, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu du concept? Déjà en quelques mots, qu'est-ce qui t'a fait accepter? Qu'est-ce qui t'a fait dire oui?
Ben alors ce qui m'a fait dire oui à cette nouvelle aventure, je pense que c'est déjà sortir de sa zone de confort et faire des épreuves dont on n'a pas l'habitude.
Et dans des conditions extrêmes?
Et dans des conditions extrêmes en plus de ça. Donc c'est-à-dire qu'on était au ski dans un pays étranger parce qu'on était en Suisse. Et c'est des épreuves qu'on n'avait jamais fait de nos vies. Enfin, pour le coup, du patinage artistique, je n'avais jamais fait. Du curling, je n'avais jamais fait. Du biathlon non plus. Enfin voilà, c'est plein d'épreuves que, en temps normal, on n'a pas la chance de pouvoir faire. Et là, on a eu cette opportunité de les essayer, de voir comment on pouvait les faire. Surtout qu'on jouait pour une association quand même. Donc, on se donnait à fond et c'était du dépassement de soi.
Tu peux nous parler de l'association que tu défendais justement?
L'association, donc c'était l'association de Philippe. C'était la recherche pour Alzheimer. C'était une association qui lui tient à cœur personnellement. Donc, on avait envie de défendre sa cause et de gagner en son honneur.
Ah oui, et de le rendre fier. Non mais rendre fier un champion olympique.
Je pourrais dire que une fois dans ma vie, je me suis battu pour rendre fier un maximum un champion olympique.
C'est totalement dingue. Dans quelle discipline t'as été le plus à l'aise?
Bah, on va dire que j'ai fait du roller pendant longtemps quand j'étais plus jeune.
Donc ça t'a aidé pour le patinage?
Donc je savais que sur des patins, j'allais pouvoir me débrouiller. Après, entre se débrouiller et être le meilleur et gagner la médaille d'or, il y a...
Bah on verra.
Voilà. Il y a un gap. Il y a un gap, ça veut pas dire que...
On verra si t'es prêt pour les Jeux Olympiques d'hiver en février.
C'est ça. Mais en tout cas, c'est là-dedans où je me disais, ok, j'ai peut-être plus de facilité sur des patins que sur des skis.
Bon, après Pékin Express, après le cerveau, il est 50. Maintenant aussi, du coup, les apprentis champions skieurs, c'est quoi la prochaine? T'aimerais faire un Pékin Express célébrité? Justement, retourner dans Pékin Express et recommencer une aventure? Et si oui, quelle serait la destination de rêve pour toi? Est-ce que la dernière, là, dans les conditions extrêmes qu'ils ont vécues, est-ce que les apprentis champions ski, c'était un petit échantillon? Est-ce que tu serais prêt à y aller, là, comme ils ont fait, là?
Peu importe où c'est, si Pékin Express me repropose une saison, mais avec grand plaisir, je dis oui. Parce que ça veut dire découvrir un nouveau pays où on n'a pas l'habitude d'aller et dans des conditions encore plus extraordinaires. Enfin, évidemment, que ce soit dans un pays chaud, dans un pays froid, qu'il fasse moins 15 ou 42, je prends mon sac à dos et j'y vais, et je donne tout.
Bon, un petit mot pour les copains qui t'accompagnent dans l'équipe de Philippe.
Ben, j'ai adoré mon équipe. Franchement, on s'est très très bien entendu. Tous.
Il y a eu des affinités particulières avec certains.
Ben, il y a eu deux. Je pense que Olivani, ça a été une super rencontre dans cette aventure. Je la connaissais pas du tout avant d'arriver, et au final, j'ai adoré sa personnalité, j'ai adoré son humour, sa façon de voir les épreuves, tout ça. Enfin, vraiment, elle est nature peinture et j'ai adoré ça. On a beaucoup rigolé. Après, je me suis très bien entendu avec Tricia, que j'avais déjà vu dans The Cerveau, avec Sarah, que j'avais déjà vu dans Les 50, et Kevin et Anthony, c'était... et avec Robin, que j'avais aussi vu dans Les 50, et Kevin et Anthony, c'était les deux personnes que je connaissais pas non plus, avec qui je me suis très très bien entendu. Donc non, je me suis très bien entendu avec tout le monde, et je pense que, ouais, on avait une super équipe des jaunes.
On va voir comment va évoluer Louison. Sans Riyad, est-ce qu'il se débrouille mieux ou moins bien? Allez, je sais pas, j'ouvre les paris, moi. Je suis sûr que c'était encore mieux.
Ah bah non, mais c'était un concept différent. Là, on n'avait pas de sac à dos à porter sur des kilomètres à faire du stop. Là, dans...
Je suis sûr que t'as regretté de pas voir Riyad patiner.
Ah, alors.
C'est ton regret.
Alors, Riyad, je connais son niveau de patin. Dans notre équipe, ça aurait pas été très bien. Autant sur des skis, je pense qu'il aurait été tout chousse. Autant sur des patins, je suis pas sûr que ça aurait été le plus confiant.
Bon, en tout cas, on l'embrasse. On te retrouve, toi, pour ta part, en tout cas, dès aujourd'hui, à 17h40, dans les apprentis champions au ski. Toute nouvelle saison inédite sur W9, juste avant tout beau tout neuf. Et vous allez pouvoir, justement, pendant quelques semaines, je pense, nous faire rire. Et puis, vous allez accompagner nos avant-soirées pour notre plus grand plaisir. Merci encore à Philippe qui était avec nous il y a quelques minutes, ton coach. Et puis, merci à toi, Louison. Et puis, à la prochaine pour une nouvelle aventure.
Bah, merci à toi aussi pour l'invitation. Et puis, oui, à très bientôt. Hâte de voir les images.
Et dans un instant, on termine l'émission avec Lou Deleuze, la grande gagnante de l'Eurovision Junior, sera dans Chute, on écoute la télé. Alors à tout de suite.
Bouge pas. Chute, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chute, on écoute la télé.
Alors à ce qui paraît, c'est fini. À ce qui paraît, c'est moins joli. À ce qui paraît, je tombe dans l'oubli. Tu m'as mené en bateau, je me retrouve solo, sous l'eau. Je tourne en rond, j'ai peur de demain, plus rien n'est beau. La poule au vent tous les matins. J'ai plus ce que j'aime, j'ai plus ce que je porte, tu dis que je suis folle. Je sais pas si je t'aime, je sais pas si je tourne bien. Je me rends pas belle au quotidien. Tu prends mes rêves, tu passes de tout à rien. Et moi je sais pas si tu te souviens. J'avais la dalle, j'avais du cœur, je chantais seul durant des heures. J'avais pas besoin que quelqu'un me rappelle combien c'est dur. J'avais pas de mal avec mes sœurs, aucun battle, pas de jeu d'accord. Puis tu t'imposes avec ces lois qui nous murmurent. Problème, problème, j'ai un problème, problème. Dans ma tête ça tourne pas. Problème, problème, j'ai un problème, problème. Tu m'as trop fait tourner en rond. Problème, problème, j'ai un problème, problème. Dans ma tête ça tourne pas. La tienne me tirait tellement loin. Mais tellement loin, ça veut pas dire que c'est bien. Surtout quand on se reconnaît moins. Je voudrais pleurer, je voudrais courir, nager loin de tes eaux usées. Je vais pas mentir, sans toi aussi je peux m'amuser. Je vais m'inventer, je vais m'en sortir, faire de mon mieux. D'ailleurs je sais que tu finiras par dire que c'est moi qui ai changé. Problème, problème, j'ai un problème, problème. Dans ma tête ça tourne pas. Problème, problème, j'ai un problème, problème. Tu me gardes, je te gêne.
Tu viens, tu pars, tu me jettes.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé. Chute, on écoute la télé, le talk show radio. L'invité d'honneur de la semaine.
Moi, tu peux même dire ce que tu veux. Moi, je l'abandonne pas. Tout le temps, je me bats. Ce soir encore, j'ai fait un vœu. Donnez-moi la.
Voilà, c'est ce monde, hein. Vous l'avez vu peut-être à l'Eurovision Junior, c'était il y a un petit peu plus d'un mois. Et quel bonheur, elle est juste à côté de moi, elle s'est installée. Lou Deleuze est avec nous. Bonjour Lou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, Eurovision, évidemment, grande gagnante de cette Eurovision. Il est vrai que tu as réussi la prouesse de ce que les adultes n'arrivent pas à faire, hein, aujourd'hui. Tu as gagné cette Eurovision Junior. Ça a dû être un incroyable bonheur, ça.
Oui, c'est sûr. Quand j'ai compris que j'avais gagné, j'étais submergée. En fait, il y avait comme un bug dans ma tête. J'arrivais plus à bouger.
Surcharge d'émotions. J'imagine, on va y revenir dans un instant, évidemment, sur cette Eurovision Junior. Mais juste avant, on va revenir aussi sur ton parcours. Moi, j'ai eu la chance de te découvrir alors au cinéma, dans le Rendez-vous de l'été, Le Parfum Vert. Léo Mattei aussi. T'as joué avec Jean-Luc Reichmann quand même. La classe.
Oui.
Belle expérience.
Très belle expérience.
Parce que t'es comédienne aussi, et c'est ça la particularité, c'est que aujourd'hui t'es vraiment à 11 ans, tu joues, tu chantes, t'es vraiment multiple talent. Tu rêvais depuis vraiment longtemps déjà d'être comédienne, c'est à 3-4 ans, tu savais déjà que t'avais envie de faire ça ?
Peut-être pas 3-4 ans, mais j'ai une petite anecdote. Quand j'étais petite, à peu près 6-7 ans,
Il n'y a pas si longtemps quoi.
Ouais, je faisais des courts-métrages avec ma maman. Pendant le confinement, parce qu'on s'ennuyait, du coup. Et on postait sur YouTube, c'était des trucs d'horreur, je crois. C'était pour Halloween. Après, moi, j'adorais faire du cinéma et tout. Et du coup, ma maman, elle m'a inscrite dans des cours de théâtre et aussi dans une agence de casting.
Alors après, c'est vrai que jouer et chanter, c'est pas forcément la même chose. Tu poussais malgré tout déjà un peu la chansonnette ou pas ? Comment ça s'est passé ? Comment c'est venu, ça ?
En fait, les deux, je... Chanter, c'est depuis que je suis toute petite, vraiment 2 ans. Et le cinéma, c'est arrivé un petit peu après ma passion pour le cinéma, quand j'ai commencé à travailler et à exercer au même âge les deux. Voilà.
Ah, est-ce qu'il y a un endroit où tu te sens le mieux ? Est-ce que la scène quand tu chantes, ou est-ce qu'un plateau de cinéma avec les caméras, avec les comédiens qui sont là, tout ce que ça comporte aussi autour, est-ce qu'il y a un des deux endroits aujourd'hui où tu te sens le mieux, ou vraiment les deux, c'est un kiff total ?
Non, ouais, c'est les deux, c'est un kiff total. Si on me demande de choisir, je pourrais pas. En fait, moi je trouve qu'il y a un petit point commun, en fait, parce que moi quand je chante, j'interprète vraiment la chanson. Et quand je fais du cinéma, donc quand je tourne dans un film, en fait j'interprète le personnage. Et du coup, je trouve qu'il y a un peu un point commun.
Et la comédie musicale, c'est quelque chose qui te tendrait ?
J'avais déjà fait des cours de comédie musicale, mais j'ai dû arrêter. Mais c'est très cool, j'adore ça. Si on me propose un casting, j'accepte très volontiers.
Ben oui, il faut pas hésiter une seconde. Alors, l'année dernière, tu as fait de la France un incroyable talent qui a fêté ses 20 ans il y a quelques semaines, et en grande pompe d'ailleurs, on peut le dire. Si t'as pas été justement à ses 20 ans, c'est parce que t'étais déjà en pleine préparation de l'Eurovision, t'as vraiment une bonne raison. Mais malgré tout, ça a été une aventure assez incroyable de te présenter devant ce jury. Et est-ce qu'il y en a un qui t'a fait plus peur que les autres ?
Samy.
Ouais, c'est bizarre, hein, celui-là, il revient tout le temps.
Il est dur. Et je trouve qu'il est dur.
Celui que tu préfères ?
Éric Antoine, je pense.
Ah oui, c'est vrai. Ces deux-là, ils reviennent systématiquement. C'est ça qui est assez drôle. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit un peu rantaine ? Est-ce qu'ils t'ont encouragé ? Est-ce qu'ils t'ont vraiment dit, voilà, faut que tu continues, faut que tu persévères, parce que c'est bien parti ?
Ah oui, ils m'ont tous encouragé. Ils ont été vraiment super sympas et je les remercie.
Oui, parce que j'ai vu Hélène Ségara très très émue, hein, l'année dernière lors de ta prestation. C'est vrai que t'as enflammé le plateau, tout le monde était debout à la fin, c'était assez dingue. C'était première pour toi grosse expérience de plateau télé.
J'avais fait l'UNICEF, j'étais petite, et j'avais chanté avec Amel Bent, mais c'était mon premier concours télé, du coup.
on le revit ensemble, on écoute.
Ok.
Allez, c'est parti. Lou Deleuze est notre invitée. Aujourd'hui, la grande gagnante de l'Eurovision Junior 2025 est avec nous. Pour en parler, on va justement évoquer tout ça avec un peu de recul. Maintenant, quasiment 5 semaines ont passé. Et c'est vrai qu'on va revenir sur cette aventure absolument folle dans quelques instants. Mais pour l'instant, on écoute Lou et sa prestation à la France un incroyable talent. Écoutez.
J'ai rêvé qu'on pouvait s'aimer au souffle du vent. S'élever l'humanité, son manteau de sang. J'irai cracher sur vos tombeaux. N'est pas le vrai, n'est pas le beau. J'ai rêvé qu'on pouvait s'aimer. Oh. J'avais rêvé du monde.
Allez, de retour avec Lou Deleuze, qui est notre invitée aujourd'hui, la grande gagnante de l'Eurovision Junior, est avec nous pour revenir effectivement sur cette aventure absolument incroyable. Comment on réagit quand on a 11 ans, qu'est-ce qu'on se dit dans sa tête quand on te dit, voilà, c'est toi qui es prise pour représenter la France à l'Eurovision, c'est pas rien. Il y a un mélange de feux d'artifice.
Oui, oui. En fait, tu t'en rends pas compte, mais c'est vraiment incroyable. Enfin, quand on m'a dit, j'étais encore submergée, mais déjà que représenter la France, c'est énorme, représenter mon pays. Et puis après, gagner avec mon pays, enfin, c'est encore plus...
Spectaculaire.
Spectaculaire, oui.
Et t'as été accompagnée évidemment par toute la délégation française de France Télévisions qui t'ont suivi vraiment pas à pas. C'est une immense fierté parce que bah, on a eu Angelina il y a quelques années, on a eu Lisandro il y a quelques années aussi. Et la France performe vraiment de façon exceptionnelle du côté de l'Eurovision Junior. Et ça, c'est déjà une belle victoire, quoi.
Ouais.
Et là, toi, ta prestation, comment tu l'as préparée tout ça?
Beaucoup de répétitions.
La chanson qu'on va écouter dans quelques instants d'ailleurs, Ce Monde, c'est une chanson qui te parlait?
Oui, en fait, c'est moi qui ai demandé ce thème-là. Parce que moi, je voulais pas un thème un peu naïf, je voulais pas...
Tu voulais que cette chanson serve à quelque chose, c'est l'intime conviction que j'ai.
Je voulais que cette chanson serve à quelque chose, je voulais que ce soit un message d'espoir. Et je voulais que, en fait, parce que depuis toute petite, je vois les choses, je vois qu'il n'y a pas grand-chose qui va. Et du coup, bah moi, j'avais envie de changer les choses avec une chanson. Et c'était un peu l'occasion, du coup.
Je trouve que tu fais partie de cette jeune génération, justement, qui commence à prendre les problèmes écologiques à bras-le-corps, qui prend conscience qu'effectivement, si on fait rien, le monde dans lequel tu vis, tu vas avoir du mal à y vieillir dans ce monde-là.
Oui, bah oui. Parce que, je le répète souvent, mais en fait, les adultes, ils peuvent rien faire maintenant. Parce que, en fait, c'est aux enfants de changer. Parce que c'est les enfants qui vont vivre dans ce monde de demain. Et du coup, c'est pas les adultes. Certes, les adultes peuvent aussi faire de leur mieux pour que nous, on ait un monde meilleur. Mais aussi, les enfants, faut réagir aussi.
Mais tu sais que t'as une sacrée maturité à 11 ans, hein, pour déjà quand même prendre tout ça à bras le corps. Et ça, c'est vraiment chouette parce que je trouve que la musique et la culture, c'est presque le monde idéal pour pouvoir arriver à faire passer ce genre de message.
Oui, oui.
C'est aussi l'impression que t'as.
Oui.
Et alors, vis-à-vis de l'école, comment t'as réussi à gérer tout ça?
Bah en fait, c'est très bien parce que moi, je suis dans une école horaire aménagée CHAM. Et en plus, pendant la semaine de l'Eurovision, la directrice et tous les membres de l'école et de la CHAM ont été super sympathiques. Ils ont rien dit, franchement. Je les remercie vraiment beaucoup.
Bon, on va parler des projets.
Ok.
Bah oui, on va parler des projets aussi, bien sûr. Lou, qu'est-ce que tu nous prépares? Est-ce qu'il y a un album, par exemple, en préparation que tu aimerais faire pour 2026, 2027?
Moi, j'aimerais bien bosser sur un EP qui serait en fait la suite de Ce Monde, du coup, et ce serait Les choses dans le monde à changer.
Une sorte d'EP feuilletonnant.
Oui, voilà, exactement.
Et la comédie?
La comédie. Alors, je peux pas trop en parler pour la comédie, mais j'ai un petit projet qui va... Enfin, un gros
projet. Allez, vas-y. Un moyen projet. Pour la télé ou pour le cinéma?
Cinéma.
Bien. Bon, bah écoute, ça, on te souhaite plein de belles choses. On va terminer sur Ce Monde, évidemment, qu'on va écouter dans quelques instants. Ça a été donc la chanson que t'as chantée à l'Eurovision Junior. On rappelle que t'as remporté avec cette chanson-là. Pour revenir un peu sur ce que t'as pu ressentir, justement, après l'avoir chantée. Et au moment de ta victoire, là, qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête? Le message est passé?
Bah oui. Le message est passé parce que les gens, ils ont réussi à capter mon message et j'ai l'impression qu'ils ont entendu mon message et eux aussi, ils voulaient que le monde change. Et Ça me fait énormément plaisir.
Écoute, Lou, en tout cas, on va écouter ce monde. Très, très belle chanson que tu as défendue, en tout cas, l'Eurovision Junior. Et c'était un très, très bon moment. On va écouter cette chanson maintenant, tout de suite, que vous pouvez vous procurer, bien sûr, sur toutes les bonnes plateformes de téléchargement légal. Et puis, on attend le P avec impatience, évidemment. Merci, Lou.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.
Tu me regardes comme ça, avec ces grands yeux, comme si je comprenais pas que le monde a froid, qu'aujourd'hui il est malheureux. Moi aussi j'ai le droit de faire de mon mieux. Je voudrais changer l'histoire pour que revienne l'espoir, l'amour et le ciel bleu. Donnez-moi l'avenir, juste là dans mes mains, et je le ferai fleurir, des roses de jasmin. Donnez-moi tout l'amour, même celui qui s'éteint. Je rallumerai le jour et le monde de demain. Ce monde, ce monde, ce monde, c'est le tien, c'est le mien. Ce monde, ce monde, c'est le mien, c'est le tien. Ce monde, ce monde, c'est le monde de demain, le monde de demain. Tu peux bien rire de moi, tu peux même dire ce que tu veux. Moi je l'abandonnerai pas, t'entends, je me bats. Ce soir encore, j'ai fait un vœu. Donnez-moi l'avenir, juste là dans mes mains, je le ferai fleurir, des roses de jasmin. Donnez-moi tout l'amour, même celui qui s'éteint. Je rallumerai le jour et le monde de demain. Je veux plus le voir souffrir, et moi j'ai peur de rien. J'attendrai pas grandir, j'attendrai pas la fin. Je lui donnerai tout l'amour pour qu'il se sente bien, et je l'aimerai pour toujours. Ce monde de demain, ce monde, ce monde, ce monde, c'est le tien, c'est le mien.
On écoute la télé spéciale festival.
Allez, ça va être un peu la semaine des festivals, hein, en tout cas, puisque c'est aujourd'hui que s'ouvre la toute nouvelle édition du Festival de l'Alpe d'Huez 2026, avec la présidente du jury qui est Audrey Lamy, qui sera accompagnée dans sa tâche par la comédienne Mélanie Douté, par la comédienne et humoriste Alison Wheeler, par le comédien Baptiste Le Caplin et le comédien William Legbill. Une bonne semaine, en tout cas, et un bon cru déjà qui s'annonce, avec une édition et une sélection officielle très riche. On va pouvoir découvrir notamment le Marsipulani en avant-première. C'est le film Chers parents qui fera l'ouverture ce soir. Le film d'Emmanuel Patron, il sera ouvert d'ailleurs ce soir en présence de André Dussolier ou encore de Pauline Clément de la Comédie Française. On y verra en tout cas dans cette semaine également le nouveau film de Fabien Gorgeard, Après la vraie famille. Il présentera C'est quoi l'amour au festival. Léo Grandperret présentera son premier film Deviens génial. Sophie Beaulieu, après Angoulême, viendra présenter également son film La Poupée avec Zoé Marshall. Et justement, ça sera un des événements du Festival de la Comédie Française de Bertrand Huskla et Martin Darondeau. Il sera présenté en présence de toute l'équipe du film. Et puis Wilfried Méhens également, à qui l'on doit déjà Jumeaux mais pas trop, avec Olivier Ducret, viendra présenter ce coup-ci en solo son film L'Arnaqueuse avec Fadili Camara et Josiane Balasco. Ensuite, Patrick Cassière, lui, viendra également présenter son nouveau film qui s'appelle Tout va super. Et puis l'un des événements marquants de cette édition sera aussi bien sûr la présence d'Ahmed Silla pour nous présenter son tout premier film en tant que réalisateur qui s'appelle L'Infiltré. Une semaine à vivre sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Chut, on écoute la télé puisqu'on sera là-bas dès ce soir.
Le rendez-vous des stars,
C'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chut, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chut, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chut, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de peaux gourmands Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Chut, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.